Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, j'étais en interview avec un futur invité des racines de la créativité. Et à un moment donné, donc on discute, et tu sais, régulièrement dans les interviews, je pose souvent cette question, est-ce qu'au départ, tu te considères comme quelqu'un de créatif? Et là, il m'explique que, en fait, lui, pendant des années, il se considérait pas comme quelqu'un de créatif, parce qu'il avait des potes, voilà, qui travaillaient dans la pub et qui étaient directeurs artistiques de je sais pas quoi, et qui ont été décorés, qui ont des récompenses parce qu'ils étaient ultra créatifs. Et donc forcément, il se comparait à ces personnes-là. Et bon, pendant l'interview, je lui dis, écoute, je suis désolé de te dire ça, mais en fait, tu es quelqu'un de créatif. Et je lui ai expliqué en fait mon point de vue. Je lui ai expliqué, voilà. Mon fameux triptyque, voilà, créativité d'expression de soi, créativité de survie, créativité d'inventivité. Bon, si t'es pas au courant de ce triptyque-là, je te mets le lien qui se trouve juste en dessous avec l'épisode qui date de plus de 2 ans, qui s'appelle trois types de créativité, les trois types de créativité que j'ai identifiés. Et donc là, en écoutant, tu vois, cet invité, je me suis dit, putain. Il y a quand même des croyances à la con autour de la créativité. Et il serait temps quand même que je les débunk, tu vois, que je dise à quel point c'est vraiment des croyances à la con. Donc c'est le sujet de cette nouvelle pause récréative. Les croyances à la con autour de la créativité. Bienvenue dans la pause récréative. Les meilleures astuces pratiques pour rendre ta créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Et aujourd'hui, on va parler des croyances à la con autour de la créativité, plus particulièrement 7. Voilà, j'ai identifié 7 croyances à la con autour de la créativité. Et je vais amener quelques sources quand même, parce que bon, je les sors pas de mon cul hein, quand même, donc j'ai un petit peu travaillé le sujet. J'en ai noté quelques-unes qui sont déjà dans mon livre, pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et puis, bon, il y en a d'autres que je vais te partager. Donc, de toute façon, il y aura les sources juste en dessous. Mais d'abord, abonne-toi aux racines de la créativité, parce que ça fait toujours plaisir. Pour cela, plusieurs moyens de le faire. Tu peux t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfin des trucs improbables, tu sais, des plateformes, même moi, enfin, j'essaye de me rappeler, mais je m'en souviens plus, quoi. Donc, tu vois, j'essaye de me rappeler, je me souviens plus. Je me souviens d'un truc qui s'appelle Radio Public, tu peux me retrouver là-dessus. Enfin, voilà. Tu tapes les racines de la créativité podcast et tu vas rapidement tomber sur cet épisode et sur tous les autres qu'il y a derrière. À peu près une centaine, hein, donc, si tu as envie d'écouter des interviews, voilà, de personnalités créatives qui te partagent leur histoire, leur vision et leurs secrets sur la créativité, t'es au bon endroit. Et si vraiment t'as pas envie de louper un seul épisode, abonne-toi à ma newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description. Je partage voilà, 2 fois par semaine mes dernières réflexions, mes dernières découvertes autour de la créativité. Donc ça se trouve juste en dessous dans la description. Alors, les croyances à la con autour de la créativité, putain. D'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon livre Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. C'est la première croyance à la con, tu vois. En fait, c'est vraiment la première, tu vois. Et avant, en fait, de traiter cette croyance qu'il faut être artiste pour être créatif, il faut déjà revenir aux racines. Tu sais à quel point j'aime bien remonter aux racines. Et donc, la question que je me suis posée, c'est, quand on parle, en fait, de créativité, il y a souvent le mot inspiration qui vient derrière. Alors, en fait, c'est quoi l'inspiration? Alors bon, si je devais revenir, tu vois, à la définition du dictionnaire, il y a 2 sens par rapport à l'inspiration. Il y a l'inspiration, donc le mouvement qui fait rentrer de l'oxygène, l'inspiration, et puis tu as l'inspiration. Alors dans le dictionnaire, il appelle ça en fait l'appel spirituel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait qui vient de l'au-delà, voilà, un souffle divin, on pourrait même dire un souffle divin, qui vient de l'extérieur et qui donne en fait l'inspiration, l'idée de génie. Et en fait, pendant des siècles, on a notamment pensé que les artistes étaient des gens, voilà, qui étaient inspirés par les dieux. C'est notamment Platon qui utilisait le terme de muse. Et la muse, c'est quoi? C'était une créature mythologique qui donnait en fait ce souffle d'inspiration, qui donnait cet élan créatif à l'artiste pour ensuite ben, créer ses œuvres, donc que ce soit créer ses textes, créer des sculptures ou ses tableaux. Pendant des siècles, on a pensé voilà que y avait un aspect divin à la créativité. Que finalement, l'artiste n'était qu'une sorte de médium. Tu sais, comme les gens, tu vois, qui parlent aux petits oiseaux et à d'autres trucs, voilà, et à d'autres créatures. On pensait que les artistes étaient un peu comme ça, en fait. Ils étaient touchés par une espèce de grâce et, en fait, ils sont juste, en fait, que des canaux, en fait, voilà, des espèces de canaux qui redirigeaient, en fait, cette énergie et ils n'étaient absolument pas responsables de ce qu'ils créaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est, bon, apparemment, tu vois, il y a eu plein de débats autour de cette vision-là de la créativité au niveau de la Renaissance, mais c'est vraiment à partir du 19e siècle et début du 20e où vraiment on va reposer en fait, on va remettre en question la créativité, parce qu'en fait, enfin plutôt même cet aspect artistique, parce qu'au départ, le mot créativité, c'est un mot qui n'existe seulement que depuis une soixantaine d'années. Le mot créativité, il n'a seulement été inventé que dans les années 40 par des psychologues américains. Alors, je n'ai plus les noms, tu m'excuses. Même là, tu vois, je regarde, puisque bon, j'ai écrit le livre et je n'ai pas forcément mis cette info, mais ça se trouve, hein. Je peux te dire que voilà, le terme créativité a été inventé dans les années 40. Et de toute façon, je te mettrai le lien de mon livre, il y a toutes les références et tu pourras te renseigner. Mais voilà, le mot créativité, avant les années 1940, ça n'existait pas. Donc, par exemple, tu as un psychologue qui s'appelle Wallace, qui propose une modélisation du processus créatif, donc qui se déroule en quatre étapes. Préparation, incubation, illumination, vérification. Et c'est un des premiers modèles qui a tenté de décrire bah, la créativité. Vraiment, tu vois, c'est né vraiment qu'au XXe siècle qu'on s'est dit, non, mais en fait, la créativité, ça vient pas de l'au-delà. N'importe quel individu, en fait, peut devenir créatif. Et là, on va faire le pont, tu vois, avec les artistes, justement, où bah, il n'y a que les artistes qui sont créatifs. Et en fait, je vais au lieu de t'expliquer en quoi les artistes ne sont pas nécessairement créatifs et toi, tu es créatif. Je vais tout simplement te donner des exemples, parce qu'en fait c'est beaucoup plus parlant. Je vais tenter de te donner des exemples dans différents domaines, parce que tu vas voir que la créativité, c'est pas uniquement au niveau de l'art. Bon, on va donner des exemples au niveau de l'art quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc je vais donner des exemples d'artistes ou même d'œuvres qui sont créatives. Bon, c'est vrai que dans le domaine de la peinture, on peut penser, tu vois, à des Picasso, à des Van Gogh. On peut également penser donc dans le cinéma, tu as des James Cameron, que ce soit avec Titanic, Terminator, Avatar. Dans la musique, on peut penser à des gens comme Michael Jackson, bon, Jean-Jacques Goldman, dont je suis un très grand fan, mais bon, je ne suis pas objectif. Prince, voilà, Prince également, un super génie, Frank Zappa, Led Zeppelin, voilà, c'est des gens qui sont hyper créatifs. Et là, on va dire, ouais, mais tu te fous de notre gueule, là, tu ne cites que des artistes. Pas de problème! On va aller dans un autre domaine, on va aller dans l'entrepreneuriat. Tu penses pas qu'un mec comme Steve Jobs, qui a révolutionné la technologie, en fait, c'est, allez, on peut même dire, ouais, ces 20-30 dernières années, n'est pas un génie? Un petit peu quand même, hein. Si, c'est un génie. Et tu peux même mettre un mec comme Elon Musk. Elon Musk, c'est un génie, voilà, c'est un mec qui est ultra créatif. C'est quand même avec d'autres potes à lui qui c'est un des gars qui a créé quand même PayPal, donc le système de paiement en ligne avec lequel tu achètes des formations en ligne à la con, tu fais tes courses sur Amazon et en fait plein d'autres trucs quoi. Donc non, c'est un génie en soi. Mais on peut même remonter un peu plus loin. Tous les inventeurs, toutes les personnes en fait qui ont créé quelque chose. On peut penser par exemple à Thomas Edison. Thomas Edison, c'est vrai qu'il est connu pour avoir inventé l'ampoule, tu vois. Mais bon, il a fait plein d'autres trucs à côté, tu vois. Donc, il a notamment été entrepreneur. Il a été. Je me demande s'il n'a pas été politique. Mais bon, ça, c'est à vérifier. Voilà. Bon, là, c'est là que tu vois que le podcast, il est vraiment fait en mode normal. Nikola Tesla, Einstein, c'est pas des gens, tu vois, qui sont des artistes, et pourtant, ils ont révolutionné leur domaine par leur créativité. Nikola Tesla, avec tous ses travaux sur l'électricité, lui, voilà, c'est un génie, lui qui a été reconnu finalement qu'après sa mort, mais voilà, c'est un génie. Einstein, voilà, Einstein également, c'est un génie. C'est un génie créatif parce que voilà, il a révolutionné le domaine de la science, notamment au niveau avec sa théorie de la relativité. Donc, il n'y a pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon bouquin ainsi, parce que n'importe qui est créatif. Mais pour cela, bah, il doit respecter ce que j'appelle le triptyque enfin, de la créativité, à savoir l'expression de soi, la survie et l'inventivité. Donc un petit rappel, je te remettrai le lien où j'explique plus en détail. La créativité, l'expression de soi, ben, c'est tout ce qui correspond à ton univers, à tes forces, à ton imagination, bref, tout ce qui vraiment te correspond à toi. Tu as un désir au fond de toi et t'as qu'une envie, en fait, c'est de le matérialiser. Et pour ça, tu vas tout mettre en œuvre pour créer et pour matérialiser ce que tu as dans ta tête. Et pour ça... Tu peux être aussi bien un artiste, donc un chanteur qui écrit ses chansons, ou un auteur qui publie ses livres, un peintre qui fait de la peinture, ou un photographe avec ses photos. Ou bien tu peux être également un entrepreneur, hein, donc tu as une idée en fait d'un produit ou d'une création, tu dis putain, j'aimerais vraiment tenter cette chose, et hop, bah, tu la crées de tes propres mains. Ça, c'est de la créativité. Le professeur Todd Lubar m'expliquait que cette forme de créativité-là, en psychologie, on appelle ça, c'est un soi créatif. SOI, soi SOI créatif. Donc ça, c'est, voilà, on pourrait même utiliser un autre mot, c'est ton potentiel, même si voilà, je suis pas très fan de ce mot à cause, voilà, de la déviation du dev perso, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Expression de soi. Ensuite, tu as ce que j'appelle la créativité de survie. Qu'est-ce que j'appelle la créativité de survie? Bah, c'est simple. Quel que soit ton niveau de créativité, quel que soit ton niveau de conscience, quel que soit ton potentiel, il y aura toujours des contraintes. Et ces contraintes, tu seras obligé à un moment ou à un autre, bah, de faire face à ces contraintes. Et le top, ce serait de dépasser ces contraintes pour pouvoir survivre avec ces contraintes. On peut ramener ça, tu vois, du darwinisme, hein, c'est tout simplement du darwinisme, à savoir, bon, de toute façon, t'as pas d'autre choix que d'adapter à ton environnement, hein, donc, on peut, voilà, si tu aimes pas le mot créativité de survie, t'as qu'à appeler ça darwinisme, mais voilà. Et puis, donc ça, c'est, on a le potentiel, puis ensuite, on a la créativité de survie, et enfin, on a ce que j'appelle la créativité d'inventivité. C'est quoi? Ça veut dire quoi, inventivité? Parce que tu peux créer ton truc, tu vois, tu peux créer une œuvre, mais si elle ne te plaît qu'à toi, en fait, elle est créative, mais c'est tout, quoi. En fait, elle va pas avoir d'impact. Et ce qui se passe, c'est que ça, je l'ai vraiment découvert en étudiant la créativité, grâce à Todd Lubar, grâce à Mihaly Csikszentmihalyi, donc l'auteur du concept The Flow. Ce qu'il explique, c'est que la créativité a toujours un enjeu et un impact social. Quand tu crées quelque chose, cette création est toujours reliée en fait à un public. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées ton truc et ta création, ton œuvre, devient créative à partir du moment où elle va toucher une personne de plus que toi. Et plus il y a de personnes qui sont touchées par tes œuvres, plus tu passes pour quelqu'un de créatif et surtout de quelqu'un d'inventif qui peut vraiment révolutionner le monde, en tout cas les gens à qui tu proposes ta création. Et donc c'est pour ça qu'il y a des œuvres aujourd'hui qui sont cultes. Mona Lisa, on parlait de Michael Jackson, donc Thriller, des films comme Ghostbusters, Retour vers le futur. C'est des personnes qui ont été créatives, qui ont partagé leur œuvre. et qui ont touché un maximum de personnes. Et ces œuvres aujourd'hui sont devenues cultes. Donc, pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Pour en savoir plus, bah, t'as bon bouquin, je te mettrai le lien juste en dessous. Donc ça, c'est voilà, on est déjà deux croyances à la con, l'inspiration qui vient du ciel et le fait que les artistes sont créatifs. Voilà, ça, ça en fait deux. Allez, au revoir. Ensuite, une autre croyance à la con sur laquelle je suis encore tombé, c'est oui, alors, en fait, si tu veux être créatif, il faut développer ton cerveau droit. Parce que le cerveau droit, c'est le cerveau de l'imagination, de la créativité. Alors c'est marrant, hein, donc il paraît que bon, moi je suis créatif, donc ça veut dire que j'ai un cerveau droit bien développé. Alors, t'as un chercheur en neurosciences, qui a été un grand expert de la créativité, qui s'appelle Édouard de Bono, voilà, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui a fait des examens de personnes qui étaient créatives, et il a passé un IRMF, donc voilà, une image radio, pour savoir bah, est-ce que finalement, quand on est créatif, on utilise uniquement son cerveau droit. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une activité créative, et bien en fait, tu utilises les deux lobes de ton cerveau. En fait, il y a plusieurs aires de ton cerveau qui sont utilisées quand tu dois générer une nouvelle idée. Donc c'est un peu con, quoi. Et donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques. Alors d'où vient le fait qu'on dise cerveau droit, créativité, cerveau gauche, logique? En fait, ça vient d'un... Je crois que c'est d'un psychologue ou d'un scientifique. Je crois que c'est un psychologue qui s'appelle MacLean. Donc, qui a proposé voilà, le modèle MacLean, à savoir donc reptilien, limbique et reptilien, limbique et frontal. Voilà, le cortex frontal. Je crois que c'est ainsi qu'on... si je me souviens bien. Et donc, je crois que c'est à cause de lui qu'on a cette séparation cerveau gauche, cerveau droit. Bon, maintenant, les neurosciences t'expliquent que non, en fait, ça se passe pas ainsi. Donc, tu peux te faire une IRM du cerveau, et si on te faisait une IRM de ton cerveau, et pendant que tu es en train de créer, en fait, on s'apercevrait que tu utilises énormément d'air de ton cerveau, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, non. Non, ça marche pas. Non, la source, pour les gens qui se disent « Ouais, ils sortent ça de son cul. » Donc moi, cette info, je l'ai trouvée dans le livre « La boîte à outils de la créativité » d'Edouard de Bono. Voilà. Donc ça, troisième croyance à la con. Voilà, au revoir. Ensuite, quatrième croyance à la con. Bon, c'est pas tellement une croyance à la con, mais disons que là, pour celle-là, je vais être un peu plus nuancé. Il y a une croyance qui dit que, voilà, pour être créatif, il faut être un rebelle. Tu vois, je crois que c'est Picasso qui disait, voilà, maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser ensuite, comme un artiste. Un truc comme ça. Donc apparemment, si tu veux vraiment être créatif, en fait, il faut être un rebelle, quoi. Donc, parce qu'apparemment, le rebelle, c'est vraiment le gars, il est tout le temps créatif, voilà. Parce qu'il fait des choses à l'inverse des autres. Alors en fait, c'est vrai. C'est en partie vrai le fait que, ben, disons qu'il faut être capable de remettre en question les règles établies, mais le rebelle est un rebelle, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris en analyse transactionnelle, c'est que le rebelle est un rebelle parce que, contrairement aux autres, il connaît beaucoup mieux les règles du système dans lequel il est que les autres. Et c'est parce qu'il connaît beaucoup mieux les règles du système qu'il peut être un rebelle. Parce que tu ne peux pas être un rebelle si tu ne connais pas les règles dans lesquelles tu joues. Donc, pour pouvoir vraiment créer et être révolutionnaire, il faut d'abord bien maîtriser les règles du jeu. Donc, si tu veux vraiment être révolutionnaire, en tout cas, créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben, au départ, il faut bien maîtriser les règles du jeu. D'où cette phrase que j'adore citer, qui dit que pour être créatif, il faut connaître les bases. Voilà, c'est super important. Pour être créatif, il faut connaître les bases. Maintenant, est-ce que des gens qui sont beaucoup moins rebelles peuvent faire preuve de créativité? Et alors là, pareil, c'est une info que j'ai retrouvée chez Édouard de Bono. Et Édouard de Bono explique que finalement, les gens qui sont... alors, je vais le dire avec mes mots, mais qui sont dans le rang, finalement, eux aussi, ils peuvent faire preuve de créativité, mais pas dans le sens où ils vont révolutionner les choses, mais plutôt où ils vont être dans l'amélioration d'un processus. C'est-à-dire que quand tu es plutôt dans le moule, tu ne vas pas être dans la créativité, tu vas plutôt être dans l'optimisation ou l'amélioration d'un système qui existe déjà. Alors que quand tu es un rebelle, bah, tu vas plus trouver de nouvelles idées vraiment qui vont sortir de l'ordinaire. Donc, quand tu es dans l'optimisation, en fait, tu ne fais que rester dans ce que tu fais déjà, alors que si tu veux créer de nouvelles choses, il faut être beaucoup plus rebelle et donc chercher des idées qui n'existent pas encore. Donc voilà la petite nuance que je voudrais amener voilà, sur cette croyance à la con qu'il faut être un rebelle pour créer. Oui, mais voilà, c'est pas uniquement ça. Il faut pas être uniquement un rebelle. Parce que c'est bien en fait d'être un rebelle quand tu veux créer ton idée, mais après, c'est aussi bien de chercher à aller au bout de cette idée. Et là, on va aller sur alors je sais plus à combien d'idées on est, mais à la nouvelle idée qui va derrière, c'est moi ce que j'ai appelé le côté obscur de la créativité. Parce que moi je sais pas, mais chaque fois que je tombe sur un contenu autour de la créativité, bah, il paraît que c'est trop cool d'être créatif. Apparemment, il n'y a que des qualités à être super créatif, voilà, parce que c'est trop bien. Je crois que c'est le cinquième point, la cinquième croyance à la con, ouais, qu'apparemment. C'est trop cool d'être créatif. Alors en fait, bah, moi je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un côté obscur, la créativité? Ouais, parce que tout le monde en parle comme une super qualité, un truc super positif. Mais bon, apparemment, en étant quelqu'un de créatif, bah, moi je peux te le dire, bah, il y a quand même un côté obscur. Et j'en ai identifié 5. J'ai identifié les 5 faces sombres de la créativité. Ben, on va revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est le côté rebelle. Donc c'est cool en fait d'être créatif, à un moment donné, voilà, c'est top parce que ben, tu vas chercher de nouvelles idées. Le gros problème, c'est qu'à force de chercher des idées totalement différentes des autres, eh ben tu vas être totalement différent des autres, et à un moment donné, tu vas t'en écarter, donc tu vas sortir du rang. Et bon, pour le cerveau, c'est compliqué parce que on a envie d'être créatif et en même temps il y a une partie de notre cerveau qui fait ouais mec c'est cool d'avoir de nouvelles idées mais bon faut quand même que je sois accepté dans le groupe dans lequel je suis. J'aime oublier que l'homme est un animal social donc s'il sort du groupe il est un peu dans la merde tu vois donc c'est pas cool tu vois donc c'est cool en fait un créatif tu vois le créatif que tu es. Il peut remettre en question le statu quo, mais en même temps, eh ben, il faut que tu fasses attention, tu vois, c'est vraiment cette limite, quoi. Donc c'est un côté obscur, voilà, un premier côté obscur de la créativité, c'est ouais, c'est cool d'être créatif, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir des idées extrêmement marginales et qui ne rentrent pas dans le moule, tu vois. Ils te disent, ouais, mais en fait, je comprends que dalle à ce que tu racontes. Donc ça, c'est la première face. Après, bah, tu as la deuxième face du côté obscur de la créativité, c'est que bah, les gens créatifs, un des défauts, si c'en est un, c'est que ce sont des gens qui sont toujours dans leur bulle, dans leur monde. Quand ils veulent créer quelque chose, bah, ils ont besoin souvent d'être dans leur bulle et qu'on leur dise « Ouais, cassez pas les couilles, tu vois, je suis en train de travailler sur mon truc, donc me fais pas chier. » quoi. Et ça, voilà, ça c'est. Si les gens, enfin, si ton entourage comprend, c'est cool. Mais la personne qui n'a pas l'habitude de ça, il dit quand même, il est un peu bizarre, il est un peu étrange. Hein, donc, il y a. Voilà, c'est le côté besoin d'être dans sa bulle, d'être enfermé pour pouvoir créer. La troisième façon de la créativité, c'est que ben, un créatif a tendance à être arrogant, voire égocentrique. Tu sais, Dale Carnegie disait souvent que le sujet préféré des gens, c'était eux-mêmes. Alors c'est vrai que bon, moi de mon côté, j'ai une fâcheuse tendance à dire que j'aime bien affirmer que je suis un connard arrogant, égocentrique et narcissique. Parce que bon, j'aime bien cela. Puis, disons que c'est une manière aussi de reconnaître que bah voilà, je suis pas parfait. J'avoue, c'est aussi une manière, tu vois, de douce formule pour reconnaître, tu vois, mon besoin d'être reconnu et valorisé, mais il se trouve que le créatif, il peut, voilà, il a souvent tendance à aller dans le côté parfois arrogant, égocentrique. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est un critère extrêmement important dans la personnalité créative. Alors là, c'est pas moi qui l'invente, c'est Todd Lubar dans son livre Psychologie de la créativité, qu'il explique que voilà, avoir confiance en soi, faire preuve d'individualisme, fait partie des 10 traits de caractère chez la personnalité créative. Donc voilà, donc là je n'invente rien. Donc, et en plus, je suis tombé sur une autre étude, donc je te mettrai le lien juste en dessous. Donc c'est une étude qui date de 2011, qui parle justement du côté obscur de la créativité. Donc je vais lire en fait les notes que j'ai prises. C'est voilà, selon David Cropley, donc l'auteur de cette étude, la créativité peut mener à la malhonnêteté et à la malveillance. Il en dégage deux types de créativité obscure. La créativité négative, donc c'est une créativité qui fait référence à la créativité qui est nuisible aux autres sans intention malveillante. Et puis, tu as la créativité malveillante qui implique l'application d'idées originales pour nuire délibérément à autrui, souvent pour obtenir un avantage injuste par la manipulation, la menace ou le préjudice. Alors, moi, j'aime bien appeler cette créativité malveillante, ou en tout cas, de façon plus globale, j'aime bien appeler. Voilà, cette créativité-là, en fait, ce côté obscur de la créativité, moi j'aime bien lui donner ce nom de la créativité dans la connerie. Tu vois, voilà, moi je suis admiratif de la connerie parce que je trouve que c'est un puits sans fond. Moi je suis admiratif des gens qui sont créatifs dans leur connerie, quoi. Tu dis non, mais le gars ou la nana ne va pas aller aussi loin. Puis en fait, si, quoi. Voilà, moi ça m'impressionne, tu vois. Tu vois, par exemple, tu vois, je crois qu'il y a un peu plus d'un an, tu vois, Patrick Balkany qui est en prison et qui dit non, mais je suis hyper malade, et que sa femme qui joue du violon pour dire il a besoin de sortir, il doit s'en sortir, voilà, il faut qu'il se fasse soigner, et qui au moment de sortir de la prison fait une danse de la victoire. Voilà, bon, je trouve ça magique, tu vois, ça c'est. Moi je trouve ça c'est du génie, tu vois, donc. Ou par exemple le Covid, tu vois, je trouve que ça c'est merveilleux. Ou une personne qui se présente comme président te dit, ouais mais non, voilà, on va faire des masques, on va pas faire de passe sanitaire, puis quelques mois après te l'envoie, c'est magique. L'arrogance. Donc ça c'était la troisième phase, la troisième face plutôt du côté obscur de la créativité. Quatrième phase du côté obscur de la créativité. Et ça c'est quand même beaucoup plus courant, c'est que donc c'est génial, tu vois, quand tu es un individu créatif, tu as plein d'idées, tu as vraiment énormément d'idées, tu peux en générer vraiment un paquet. Mais il y a un souci, le gros problème, c'est que le créatif, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il peut être abstrait, il peut être dans son monde, mais aussi il peut avoir tendance à ne pas aller au bout de ses idées. C'est-à-dire qu'il va créer une idée, il va en avoir une, mais est-ce qu'il va aller au bout, tu vois, est-ce qu'il va aller jusqu'à sa concrétisation? Eh bien, pas forcément. Un créatif, tu vois, il peut trouver les bonnes idées, tu vois, il peut les générer, mais est-ce qu'il va les amener à sa matérialisation? Généralement, non. Dans le bouquin de Scott Belsky, Make Ideas Happen, lui, il différencie deux types d'individus. Tu as the dreamer, donc celui qui rêve, et puis tu as the doer, celui qui fait. Et que pour qu'un projet arrive à son terme, c'est que ben, tu as besoin du dreamer, du mec qui rêve, qui a des idées, qui a une vision, mais derrière, tu as besoin de quelqu'un qui a besoin de concrétiser cette idée. Alors, tu as des individus qui arrivent à mixer un petit peu des deux, mais c'est pas toujours évident, c'est vraiment pas évident, et donc. Voilà, le quatrième côté obscur de la créativité, ben voilà, c'est le fait que de temps en temps, enfin, parfois, tu ne vas pas au bout de ces idées. Et puis, ben, il y a le dernier côté obscur de la créativité, c'est celui-ci. Alors, c'est cool, tu arrives à générer des idées. C'est même top, tu vois. Tu es même un individu qui est capable de générer des idées, des milliers d'idées à la seconde. Ok. Mais comment tu sais si cette idée c'est la bonne ou pas? Et là, ouais, là, tu rentres dans un dilemme. Le problème, c'est que tu peux avoir plein d'idées, tu vois, en tant que créatif, Mais ces idées, elles sont bien. Tu peux même les noter, les capturer, et tant mieux. Mais à un moment donné, comment tu sais si cette idée, c'est la bonne? Ah ouais, comment tu sais? Et donc, ben voilà, un aussi des côtés obscurs, c'est que ben, c'est cool, tu peux générer des idées, mais à un moment donné, cette idée, tu as besoin de la valider. Tu as besoin de tuer cette idée, et non pas forcément tuer ta motivation dans l'œuf, mais en tout cas de tuer l'idée, de dire tout de suite si cette idée elle est bonne ou pas. Et bon, bah, le meilleur moyen de savoir si une idée elle est bonne, c'est de la killer. Mais là aussi, j'ai fait un podcast sur le sujet que je te mettrai juste en dessous dans la description. Sixième croyance à la con. La créativité, moteur pour être entrepreneur. C'est marrant, hein. Ça aussi, tu vois, j'ai souvent entendu que, voilà, que c'était bien d'être créatif, c'était une belle qualité. Et un domaine dans lequel apparemment, putain, c'est vraiment bien d'être créatif, mais alors c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment important d'être créatif, c'est pour créer d'avoir de nouvelles idées, pour créer de nouveaux contenus, bah, c'est important d'être créatif. Hein, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que quels sont, voilà, je suis tombé sur un article, donc c'est un article de ManagerGo, voilà, du site ManagerGo. Et putain, franchement, moi j'étais sur le cul, quoi. Quand j'ai vu cet article, voilà, qui disait que toutes les qualités, qui vantait toutes les qualités du créatif, voilà, pour un manager d'être créatif, je me suis dit, putain, en fait, le gars, en fait, c'est pas un créatif qu'il est, c'est Superman, quoi. Parce que voilà les qualités qu'un individu créatif, qu'un manager créatif va véhiculer auprès de son équipe. La compétitivité. Donc là, je vais te lire les lignes qui sont dans mon livre. La compétitivité. Donc les entreprises ont besoin de rester compétitives. Et pour cela, il faut des collaborateurs capables de se projeter, s'adapter et proposer des idées et solutions novatrices. Et donc être source d'innovation. Le leadership, un individu créatif serait porteur d'une vision et d'une intuition qui lui permettrait d'anticiper les besoins clients et de faire face aux nouvelles contraintes du marché. De plus, il réduirait la peur de l'échec. La gestion d'une équipe, son imagination débordante, sa capacité à prendre des décisions auraient un impact positif sur l'équipe dont il fait partie. Ouais, en fait, c'est Superman. Le gars, lui tout seul, il peut régler un paquet de problèmes qui existent et finalement qui éviterait d'embaucher plusieurs personnes pour régler ses problèmes. Ah, il est cool le créatif. En fait, je sais pas si c'est créatif. Je me demande finalement si la vraie question, enfin le vrai mot pour employer le mot créatif, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est pas plutôt polyvalent. Tu vois, en fait, ce qu'on te demande, en fait, c'est pas d'être créatif, c'est d'être polyvalent. On a besoin que tu sois capable de réparer la photocopieuse, d'avoir de nouvelles idées, en même temps de gérer les conflits entre Suzanne, tu vois, et Janine. Enfin, c'est, enfin voilà quoi. C'est, en fait, on te demande d'être Superman. En fait, t'es pas créatif. En fait, t'es plombier. Et dès qu'il y a un problème de fuite, on fait appel à toi. Ouais. Ça, c'est marrant. Ça, putain, ça, j'adore. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Enfin bon. Et alors, dans l'entrepreneuriat, alors là, je te dis pas quoi. Apparemment. Ah, mais c'est vraiment bien d'être créatif quand même, d'affirmer ta personnalité, de montrer au monde que avec ta personnalité, tu peux avoir un impact. Honnêtement, ça fait des années que je suis dans l'entrepreneuriat, que je suis ça de très près. Et objectivement, la créativité, j'en ai pas encore. Il y a des gens qui utilisent leur créativité, mais est-ce que derrière, ils font preuve de créativité, ça c'est autre chose. C'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Honnêtement, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui me. Enfin, dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est pas un milieu hyper créatif. Au contraire, la seule créativité que je vois dans l'entrepreneuriat, c'est plus dans la façon de présenter. La même cam. C'est-à-dire que tu as des gens, ils vendent les mêmes services basiques, ça peut s'appeler graphisme, rédaction web, copywriting, développeur informatique. La seule créativité qu'il y a, c'est dans la façon de présenter les services. Parce qu'après, pour tout le reste, il n'y a rien de créatif. Enfin, en tout cas, sur le papier, il n'y a rien de créatif. Après, ce qui rend cette personnalité créative, c'est vraiment, ben, comme je le dis souvent dans le podcast, c'est son histoire, ce qu'elle raconte. Et voilà, qu'est-ce qui transparaît de sa personnalité, quel est son univers. Et là, ouais, on peut parler qu'il y a une forme de créativité. Mais en soi, je suis pas certain que tu aies besoin d'être créatif pour être dans l'entrepreneuriat. Non, honnêtement, il suffit juste de regarder ce que font tes concurrents et de faire juste les choses différemment et de le présenter sous un angle différent et dont personne n'a encore vu. Et voilà quoi, c'est tout. Et après, tu peux même vendre au même tarif, ça passe quoi. Donc, bon, en tout cas, de toute façon, je suis pas très objectif parce que bon, l'entrepreneuriat, moi, les entrepreneurs sont pas les gens qui me font le plus rêver en termes de créativité, c'est pas eux qui me font le plus bander, quoi. Donc, c'est pour ça. Donc, sixième croyance à la con, la créativité est un moteur pour l'entrepreneuriat. Oui, mais non. Voilà, chez moi en tout cas, oui, mais non. Bon, après, si tu arrives à me convaincre que c'est un moteur, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Mais là, tout de suite, non. Et enfin, la dernière croyance à la con que j'ai pu observer, c'est celle-ci. C'est j'ai fait une formation, un coaching en créativité, un programme, j'ai été suivi pour devenir beaucoup plus créatif, et maintenant, je suis créatif. Juste parce que tu t'es cassé le cul pendant 2 jours, tu vois, à travailler sur ta créativité, maintenant tu es un individu créatif. Alors, comment te dire? Ça fait plus de 2 ans que j'interviewe des gens sur la créativité. Et honnêtement, je le dis souvent, mais ce n'est pas une technique qui te rend créatif. C'est pas parce que tu connais par cœur les 6 chapeaux de Bono que tu pratiques à merveille le mind mapping ou le brainstorming ou toutes les techniques du bouquin de Guy Aznar, donc les 99 ou les 100 techniques pour avoir de nouvelles idées, c'est pas parce que tu maîtrises ces outils que tu es créatif. Parce que le souci de ce genre de formation, bah, c'est que tu restes dans un cadre et tu restes dans le cadre de ta technique. Or, la créativité, comme je t'ai expliqué, c'est pas uniquement le cadre de ta technique. C'est cool d'avoir les bases, c'est top, mais et donc, je le dis à chaque fois, hein, pour être créatif, il faut connaître les bases. Sauf que ces techniques-là, ce sont des techniques. Ce ne sont même pas des stratégies. Ce ne sont même pas des principes. Donc, ce ne sont pas avec ces outils-là que tu vas pouvoir générer de nouvelles idées. C'est, voilà, ça peut faire partie de ta boîte à outils, mais ce n'est pas avec ça que tu vas générer de nouvelles idées. Moi, ce n'est pas comme ça que je génère de nouvelles idées. J'utilise très rarement les chapeaux de Bono, le mind mapping. Bon, de temps en temps, le mind mapping, ça me sert surtout pour balancer les idées, pour juste que j'arrive à les voir en face, et après, je les organise. Mais non, je suis désolé, c'est pas une formation, c'est pas un coaching, c'est pas un programme qui va t'apprendre à devenir créatif. D'ailleurs, je me suis posé la question, hein. Honnêtement, je me suis posé la question. Je fais, bah, tu sais, je pourrais faire un coaching, proposer un accompagnement en créativité. Mais honnêtement, ouais, en fait, je serais un imposteur. Et c'est même pas une question d'être d'un syndrome de l'imposteur, si je suis légitime ou pas. C'est même pas une question de légitimité. Je pense que voilà, avec 2 ans de podcast, avec un livre sur le sujet, avec les interviews, voilà, que j'ai réalisées, j'ai pas à rougir sur ma légitimité en tant qu'expert en créativité. Je peux parler avec d'autres personnes de créativité, il n'y a aucun problème. C'est juste que d'un point de vue éthique. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose que tu travailles tous les jours, quoi. Et le mot-clé que j'ai envie que tu retiennes, voilà, de cette dernière croyance à la con, mais finalement, de toutes ces croyances à la con, bah, c'est le mot autonomie. Et en fait, la réponse à ces croyances à la con, c'est autonomie. Ou, dit de façon beaucoup plus simple, lève ton cul et bouge-toi, quoi. En fait, c'est ça la créativité, c'est qu'à un moment donné, faut que tu te bouges le cul et puis que tu fasses les choses. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu ne les matérialises pas, ça ne sert à rien, quoi. Et tu peux créer, tu peux enchaîner les œuvres, mais après, si tu ne les fais pas connaître, si tu ne les fais pas rencontrer, à quoi ça sert? À quoi ça sert donc? Quand tu crées quelque chose, certes, c'est pour toi, mais à un moment donné, c'est aussi pour le partager à d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'un jour je ferai une formation du coaching en créativité? Alors, le coaching, non. Là, tout de suite, non. Je pense que je partagerai, voilà, des produits, pas, je sais pas, je peux pas dire que ce sont des formations. Une formation, c'est tu vas passer du temps à apprendre une compétence. Or, moi, ce que je fais avec la créativité, c'est que je t'apprends pas des compétences. Moi, ce que je peux te partager, c'est ma compréhension, ce sont mes compréhensions. J'ai vu, tu vois, il n'y a pas longtemps, un formateur en neuroergonomie, et j'aime beaucoup ce qu'il partageait, c'est qu'au départ, donc en fait, comment tu gères l'information, comment le cerveau il traite les informations. Au départ, il y a de la donnée, ensuite cette donnée, en fait, elle est regroupée pour en faire de l'information, et cette information derrière, elle va être transformée en connaissance. Prenons un exemple concret, c'est au départ, bah, tu as des ingrédients, et à un moment donné, ces ingrédients, tu vas les assembler. Ça va faire la recette des crêpes. Bah, la recette des crêpes, c'est une connaissance. Le truc, c'est que la recette des crêpes, tu peux la lire plusieurs fois, 20 000 fois, tu peux la connaître par cœur. C'est pas pour autant que tu en feras un savoir, que ce sera acquis. Pour l'acquérir, il faut d'abord que tu comprennes l'information et ensuite que tu l'expérimentes. Et le gros problème, c'est que, et le gros problème que je vois dans la formation en ligne, c'est que tu accumules de la connaissance, mais tu n'accumules pas de savoir. Et il est là le gros problème, c'est que pour qu'une information se transforme en savoir, ben, tu as différentes étapes. Et le gros problème, c'est que aujourd'hui, toi comme moi, quand on achète une formation en ligne, on n'achète pas du savoir, on achète de la connaissance. C'est-à-dire que nous, on achète des choses, voilà, enfin, ouais, je veux dire, nous, quand tu achètes une formation en ligne, tu achètes quelqu'un, voilà, qui partage ses connaissances. Mais après, le moment où ça va être, parfois, ça peut être aussi du savoir, hein, ça peut être son expertise, ça peut être du savoir, mais quand l'information, elle arrive, pour toi, c'est que de la connaissance. Ça deviendra un savoir quand tu l'auras mis en application. Quand tu auras compris, quand tu auras digéré à quoi sert cette information. Sinon, en fait, c'est du McDo, quoi. C'est uniquement du McDo. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, je ne peux pas dire que je proposerai de la formation. Je proposerai plus. Bah, j'ai pas de nom pour l'instant, mais si je dois, si je, enfin, ce sont mes livres. C'est pour ça que j'écris des livres. Les livres, pour moi, c'est une compréhension d'un sujet. Et c'est comme ça que j'ai envie de voir aussi les formations en ligne que je vais proposer. Que ce soit des formations en ligne, je sais pas, je m'intéresse à tellement de choses, que ce soit l'écriture, donc soit en copywriting ou écriture de livres, au niveau du podcast également. Souvent, on me demande, voilà, est-ce que je ne lancerai pas une formation en podcast? J'ai pas envie de lancer une formation podcast, j'ai pas envie de lancer une formation copywriting, j'ai pas envie de former et de lancer une formation en écriture de livres. Moi, ce que j'ai envie de te partager, ce que j'ai envie de proposer, c'est plus mon parcours, voilà, mon histoire. Voilà, c'est mon histoire en copywriting, c'est mon histoire en podcasting, c'est mon histoire dans l'écriture de romans. Parce que je peux t'apporter mes connaissances et je peux t'apporter mon expérience. Mais cette expérience et mes connaissances ne resteront que de la connaissance pour toi. Si tu fais pas, voilà, si tu franchis pas le cap, bah, toute l'information que tu gobras, que ce soit chez moi ou ailleurs, ça vaudra que dalle. Donc, ma réflexion, elle se tourne là. Donc, aujourd'hui, si je dois proposer des produits, ce ne seront pas des formations. Ce seront des histoires. Et je trouve que c'est pas mal en fait de dire que enfin, je sais pas si c'est le bon mot, enfin, le bon mot marketing, mais aujourd'hui, c'est ce qui me correspond le plus, quoi. Je te propose pas une formation en copywriting, je te propose mon histoire en copywriting. Je te propose pas une formation en podcasting, mais mon histoire en podcasting. Je te propose pas, voilà, ma formation, je sais pas moi, en écriture de roman, mais mon histoire en formation de roman, mon parcours, voilà, enfin. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ces 7 croyances à la con. Bon, j'ai fait un peu plus long que d'habitude au niveau de cette pause récréative, mais c'est important, quoi. C'est vraiment important. Donc, oui, tu es un individu créatif, mais putain, faut que tu te bouges le cul, quoi. Franchement, c'est super important que tu te bouges le cul parce que ça va pas arriver du jour au lendemain. Voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que ça t'a pas paru trop long. Comme d'habitude, tu vois, avec moi, c'est vraiment une discussion que j'ai. Et j'ai vraiment voulu te partager ma vision, mon histoire sur ces croyances à la con autour de la créativité. Partage ce podcast à toute personne qui a des croyances à la con autour de la créativité. Mets un pouce bleu, enfin, partage ce podcast à plein de personnes. Bon, aide-moi à faire connaître ce podcast parce que voilà, c'est marrant aussi de faire venir de nouvelles personnes. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis, à plus tard dans ma newsletter qui se trouve juste en dessous. Je te dis à plus tard. Salut!